VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 24 mai 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres. Au Sénégal, 10 ans de réclusion criminelle requis par le procureur contre l'opposant Ousmane Sonko pour viol. Au Cameroun, une trentaine de femmes kidnappées par des séparatistes anglophones. Au Soudan, des tirs sporadiques au mépris d'une nouvelle trêve. Le républicain Ron DeSantis, considéré comme le principal rival de l'ex-président Trump, va se lancer mercredi dans la course à la Maison-Blanche, ce mercredi, via un échange sur Twitter avec Elon Musk, patron du réseau social. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko a commencé hier en son absence et celle de ses avocats au tribunal de Dakar, placé sous haute protection policière par crainte de troubles. Précision de John Linden.
L'affaire est en état d'être jugée, a tranché Issa Ndiaye, président des chambres criminelles du tribunal de grande instance. Le procès est entré dans le vif du sujet avec la lecture de l'acte d'accusation. Le passage de Hadji Sarr à la barre a été sans filtre. Elle a relaté des détails souvent intimes qui ont poussé certaines personnes à quitter la salle d'audience. La masseuse dit avoir subi des menaces de la part d'Ousmane Sonko. La co-accusée de M. Sonko, Ndé Kadi Ndiaye, enceinte, a comparu assise. Elle a répondu aux questions du juge sans l'assistance de ses avocats. Elle affirme n'avoir jamais offert de tels services dans son salon. Elle a remis en cause les dates fournies par Hadji Sarr, qui coïncident selon elle à son accouchement. La vérité va jaillir, a dit maître El Hadji Diouf, conseil de la plaignante. Il a qualifié M. Sonko, absent à son procès, de fuyard et de poltron. La justice sénégalaise se saborde. Elle est décidée à livrer une commande de passer par le pouvoir, a protesté hors de la salle maître Siré Clédor Lee, avocat de Sonko. Le viol criminalisé au Sénégal depuis 2020 est passible de 10 à 20 ans de prison.
Après un procès marathon, le procureur a requis de lourdes peines et le verdict a été mis en délibéré au 1er juin 2023, selon notre correspondant sur place, Sedina Abagay, que nous retrouverons en seconde partie de cette édition. Au Soudan, des tirs sporadiques ont été entendus mardi à Khartoum, malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve entre l'armée et les paramilitaires, censée permettre à des civils de fuir et à l'aide humanitaire d'être distribuée au Soudan. Mardi, un calme précaire a régné dans différents quartiers de la capitale ainsi que dans plusieurs villes du Darfour, selon des habitants. Un employé humanitaire a cependant déclaré à l'AFP qu'aucun couloir sécurisé permettant le déplacement des civils ou l'acheminement de cargaisons d'aide ne semblait se dessiner. Le conflit au Soudan a fait depuis le 15 avril un millier de morts et plus d'un million de déplacés et réfugiés. Au Cameroun, une trentaine de femmes ont été enlevées, selon les autorités, par des rebelles indépendantistes il y a près de 4 jours, dans l'ouest du pays, ensanglanté depuis plus de 6 ans par un conflit entre séparatistes de la minorité anglophone et forces de l'ordre, Claire Morin-Gibourg.
Elles ont été sévèrement torturées et enlevées par des terroristes armés dans le village de Kedjom-Kekou, dans la région du Nord-Ouest, a indiqué mardi dans un communiqué la préfecture du département de la Mézame. Les autorités entendent par terroristes les rebelles armés anglophones ou Amba Fighters qui réclament l'indépendance des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'ils appellent l'Ambazonie. Certains de ces groupes perpétuent régulièrement des enlèvements de civils contre rançon, parfois en groupes importants, comme le rapt de ces quelques 30 femmes, notamment dans les établissements scolaires qu'ils accusent d'enseigner le français. Selon le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, une ONG basée à Yaoundé, les femmes avaient manifesté publiquement la veille de leur cyberenlèvement contre les activités d'exploitation des Zomba Fighters et notamment l'obligation imposée aux civils par ces derniers de leur payer des taxes mensuelles de 10 000 francs CFA pour les hommes et 5 000 pour les femmes. Les rebelles assurent, eux, que ces taxes servent au financement de leur effort de guerre pour l'indépendance. Le conflit a fait plus de 6 000 morts et plus d'un million de personnes déplacées, selon le centre de réflexion international Crisis Group.
En RDC, la MONUSCO a condamné à son tour mardi l'usage disproportionné de la force par la police samedi à Kinshasa lors d'une manifestation de l'opposition. La mission des Nations Unies au Congo a aussi salué l'arrestation des policiers impliqués dans l'incident contre un mineur et appelé les autorités à respecter le droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique. D'autre part, le camp de Moïse Katumbi, un candidat à la présidentielle, a dénoncé une dérive dictatoriale après qu'il a été empêché mardi de se rendre dans la province du Congo central, dans l'ouest du pays, disant que le gouverneur de la province avait cité des raisons de sécurité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une centaine d'élus du Congrès américain et du Parlement européen ont appelé hier au retrait de la nomination d'un patron issu de l'industrie pétrolière pour présider la prochaine COP28 à Dubaï. Michel Joseph.
La missive est adressée au président américain Joe Biden, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et à Simon Steele, secrétaire exécutif de l'ONU Climat. Ces élus américains et européens les exhortent à faire pression pour que les Émirats arabes unis renoncent à la nomination de Sultan Al-Jaber. Ce quadragénaire, ministre émirati de l'industrie et patron du géant pétrolier ADNOC, a été nommé pour présider la conférence de l'ONU sur le climat prévue à la fin de l'année à Dubaï. Il a déjà été vivement critiqué en janvier par une centaine d'ONG. En avril, Sultan Al-Jaber s'était défendu en rappelant qu'il était aussi le fondateur de Masdar, géant émirati spécialisé dans les énergies renouvelables, et il avait assuré que son pays travaillait à la transition énergétique depuis plus de 20 ans.
Ici aux États-Unis, le républicain Ron DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 ce mercredi. L'annonce en a été faite par le patron de Twitter, Elon Musk, lors d'une conversation directe sur ce réseau social, Alexandrine Ollonion.
Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire, a déclaré Elon Musk lors d'un échange avec le Wall Street Journal. La conversation entre les deux hommes est prévue pour aujourd'hui à 18h, heure de Washington. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, est perçu comme le potentiel rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine, car il prétend incarner la nouvelle garde. Les deux hommes sont les deux favoris. Les autres candidats républicains déclarés, Nikki Haley, Tim Scott, Asha Hutchinson, dépassent pour l'instant rarement les 5% d'intention de vote. Le candidat choisi par le camp républicain à l'issue de primaires affrontera en novembre 2024 celui désigné par le Parti démocrate. L'auteur à succès Marianne Williamson et un neveu de JFK, Robert Kennedy Jr., sont les seuls pour l'instant à s'être lancés dans la course à l'investiture démocrate face au président Joe Biden.
JFK est pour John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, assassiné en 1963 à Dallas, au Texas. Netflix a annoncé hier que les utilisateurs américains, français et d'une centaine d'autres pays devraient désormais payer un supplément pour partager leur code d'accès au service avec des personnes non membres de leur foyer dans le cadre de sa stratégie pour diversifier ses revenus. Nanit Talani.
Le géant du streaming teste depuis un an cette nouvelle formule et l'a déjà mise en place au Canada. Maintenant, les ménages américains vont devoir payer près de $8 en plus par mois pour autoriser un invité à utiliser leur compte. En France et en Espagne, ce sera 6 € mensuels et 4 € en plus au Portugal. Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c'est-à-dire votre foyer, indique un email de la plateforme envoyé hier à tous les abonnés. Le message indique deux solutions possibles pour ceux qui partagent déjà leurs identifiants. Ils peuvent ajouter un abonné supplémentaire en payant le supplément ou bien transférer le profil d'une personne extérieure au foyer qui devra souscrire à son propre abonnement.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque africaine de développement a approuvé une garantie partielle de crédit de 345 millions de dollars pour renforcer le financement des initiatives vertes et sociales en Égypte et promouvoir les secteurs des énergies renouvelables et de la gestion durable de l'eau, entre autres. Le Tchad a lancé les travaux de connexion de la dorsale transsaharienne à fibre optique, qui consiste en la pose d'un linéaire à fibre optique de 1110 km pour interconnecter le Niger, l'Algérie, le Nigeria et le Tchad. Le projet de 79 millions d'euros est cofinancé par l'Union européenne et la BAD. Il contribuera à diversifier l'économie à travers des recettes fiscales. Il réduira le coût des transactions économiques et sociales, rompra l'isolement numérique des zones rurales et renforcera l'intégration régionale. Terminons par Total, qui veut mettre en œuvre un plan d'action pour respecter les droits des résidents à proximité de son projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique au cours de l'été, a annoncé la société qui se dirige vers un redémarrage. Ce plan comprend la rémunération des familles déplacées, la construction de nouvelles maisons, l'amélioration de l'accès à la pêche, la renégociation des relations avec les forces de sécurité et la création d'une fondation pour améliorer la vie locale avec un budget pluriannuel de 200 millions de dollars.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
En Angleterre, Saka prolonge avec Arsenal.
L'attaquant anglais d'Arsenal, Bukayo Saka, a paraffé un nouveau contrat de longue durée avec le club londonien, ont annoncé mardi les Gunners. La presse britannique indique que le joueur de 21 ans est désormais lié jusqu'en 2027. Conserver nos meilleurs joueurs est essentiel pour que l'on continue de progresser et Bukayo représente déjà un élément majeur de l'effectif actuel et de l'avenir. C'est félicité son entraîneur Mikel Arteta, cité dans le communiqué d'Arsenal. Auteur d'une saison pleine qu'il a vu inscrire 14 buts et délivrer 11 passes décisives, Saka s'est imposé lors des deux dernières saisons.
Cérémonie d'ouverture des JO 2024, la France ne précise pas le nombre de spectateurs.
Le ministre français de l'Intérieur n'a pas donné de chiffres précis mardi concernant le nombre maximum de spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris l'an prochain, évoquant plusieurs centaines de milliers de personnes. Cette cérémonie démarrera à 19h24 GMT le 26 juillet 2024 et aura la particularité inédite de se dérouler en plein air sur la Seine.
Mondial 2030 ou 2034, une candidature saoudienne doit viser l'édition la plus favorable.
Riyad doit viser l'édition la plus propice à ses chances d'obtenir l'organisation de la compétition phare du football, a estimé le président de la Confédération asiatique de football, AFC. L'Arabie saoudite arrive en force et nous sommes en train de nous coordonner avec les autres confédérations et la FIFA pour accueillir la Coupe du Monde en 2030 ou en 2034, en accord avec tout le monde pour que, une fois le dossier déposé, nous soyons confiants à 90% au moins, a expliqué le patron de la FEC qui s'exprimait lundi à Beyrouth.
Playoff NBA, Boston s'impose à Miami et reprend un peu espoir.
Tout à fait Idrissa, guidé par Jason Tatum, moteur de 34 points, Boston s'est imposé 116-99 à Miami pour réduire l'écart à 3 victoires à 1 dans leur finale de conférence Est hier soir en playoff de la NBA. Dos au mur, les Celtics devaient impérativement l'emporter sous peine d'élimination. Ils reprennent donc quelques couleurs mais devront enchaîner 3 autres succès consécutifs pour renverser une situation hautement compromise. Dans l'histoire, Idrissa, en 150 occasions, jamais une équipe menée 3-0 n'a remporté une série en 7 matchs. Le Heat reste donc en ballottage favorable pour tenter de disputer une 7e finale avec l'objectif de décrocher un 4e titre de champion.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le procès opposant Ousmane Sonko, l'opposant à Hadji Sarr, la masseuse qui l'accuse de viol, s'est tenu hier mardi devant les chambres criminelles du tribunal de grande instance de Dakar. Après un procès marathon, le procureur a requis de lourdes peines et le verdict a été mis en délibéré au 1er juin 2023. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
10 ans de réclusion criminelle pour viol, à défaut 5 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse avec une amende de 2 millions de francs CFA et 1 an de prison ferme pour menace de mort. Telles sont les peines requises par le procureur contre Ousmane Sonko, un réquisitoire loin de satisfaire les avocats de la plaignante Hadji Sarr, comme l'affirme Maître Elhadj Diouf.
Je ne suis pas totalement satisfait par le réquisitoire du parquet, parce qu'il y a une proposition du parquet qui me paraît un peu insolite. Après avoir bien développé les arguments qui plaident en faveur d'une condamnation pour viol, le parquet a un peu reculé. Telle n'est pas notre position. Le refus de faire de testadaire, la présence de sperme constatée par le préfet, le docteur Gaye, le laboratoire, le refus de M. Sonko de répondre aux questions du juge et de faire de testadaire, cela prouve que Sonko est coupable.
Les conseils d'Hadji Sarr réclament par ailleurs la somme de 1,5 milliard de francs CFA de dommages et intérêts et la contrainte par corps au maximum. Une demande qui n'a pu être contestée par la défense, car bien avant, les avocats d'Ousmane Sonko se sont retirés face au refus du juge de renvoyer l'audience. Pour les conseils de l'opposant, certaines règles élémentaires de la procédure n'ont pas été respectées, comme nous le dit Maître Cheikh Khouré Siba.
Normalement, l'affaire ne devait pas être retenue car Ousmane Sonko n'a jamais reçu de convocation pour ce procès. Une personne ne peut pas venir répondre au tribunal parce qu'il a entendu à la radio ou lu ça dans les quotidiens. Mais on va répondre en justice parce qu'on a reçu un papier en bonne et due forme qui doit être déchargé. Sonko n'est pas là et son absence ne peut pas avoir aucune conséquence car ce dossier est vide et personne ne peut le condamner pour ça.
Au-delà des peines requises contre Ousmane Sonko, le procureur a également requis 5 ans de réclusion criminelle contre la dame d'Aïkhadi Ndiaye, propriétaire du salon Suite Boti, pour complicité de viol, 1 an de prison ferme contre la même dame pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, et enfin 1 an de prison ferme pour incitation à la débauche. Après plus de 18 heures de débats intenses, la chambre criminelle a mis l'affaire en délibéré au 1er juin 2023. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, les médias privés ont observé hier une journée sans presse. Les associations de la presse veulent ainsi protester contre des restrictions de diffusion imposées aux médias. La manifestation a été annoncée lundi après que les militaires au pouvoir ont fermé 2 stations de radio appartenant au groupe Afrique Vision, limité l'accès au site web populaire et aux médias sociaux et menacé de fermer tout média qui porte atteinte à l'unité nationale. Une marche de protestation est prévue par ailleurs le 1er juin. Alexandrine Hollognon, adjointe à Conakry, Sanou Kerfala Cissé, président du groupe Afrique Vision.
Sur l'ensemble du territoire, tous les émetteurs de radio ont été éteints. La radio n'est pas passée. Et même au niveau de la radio nationale, on entend juste des musiques pastorales et la chorale qui passe. Donc à ce niveau, il n'y a pas eu sincèrement de travail au niveau de la presse à République de Guinée.
Après cette journée sans presse observée, est-ce que vous prévoyez d'autres actions?
Il y a le boycott aussi de la couverture de toutes les activités du gouvernement. Nous avons décidé de ne pas participer à la couverture de leurs différents événements. Et puis à la semaine nationale aussi du métier de l'information et de la communication. Donc il y a toute une batterie. Ensuite, le 1er juin, il y a la marche de protestation aussi qui va être organisée sur l'ensemble du territoire. Donc il y a toute une batterie d'événements qui vont être organisées dans le cadre de la protestation contre ce que les nouveaux maîtres aujourd'hui, la junte, veulent imposer au pays. Donc, il y a une protestation au niveau de l'ensemble des journalistes guinéens.
Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons qui ont mené non seulement à la journée de la presse, mais à ces différentes actions que vous venez de citer?
Il y a deux semaines, voire trois semaines, nous avons constaté la perturbation ou la coupure de l'Internet au niveau de certains sites Internet. Et même nous, nos pages Facebook qui relaient vraiment de l'information ont subi des attaques, des hackers, et même nos comptes personnels. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le vol des équipements et des émetteurs de Sabari FM et de Love FM par le ministre des Postes et Télécommunications à travers l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Donc, entre-temps, nous avons constaté également les jours qui ont suivi le brouillage des émissions de FIM FM et de Goma FM. Donc, l'ensemble des journalistes se sont levés comme un seul homme pour dire non à ces pratiques rétrogrades, à ces pratiques liberticides.
Monsieur Cissé, le porte-parole du gouvernement a réagi et il a démenti toute implication des autorités dans les perturbations sur Internet et également dans l'opération contre Afrique Vision.
Le ministre Gawal, nous, on le connaît. Vous savez, quelqu'un qui a double langage, quelqu'un qui ne peut jamais dire la vérité. Moi, j'ai décidé de jamais parler d'un individu comme ça.
C'était joint à Conakry, Sanou Kerfala Cissé, président du groupe Afrique Vision. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a été empêché hier d'entrer dans la province du Congo central, dans le sud-ouest du pays, où il avait prévu des activités avec ses partisans. L'incident s'est produit trois jours après la marche de l'opposition que la police a dispersée à Kinshasa. Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu.
Eh bien, arrivé juste à la frontière de la province du Congo central, Moïse Katumbi a été bloqué par un escadron de policiers qui lui ont interdit de fouler la province du Congo central. Ces policiers avaient reçu des ordres du gouverneur de la province d'empêcher Moïse Katumbi d'entrer dans la province.
Vous parlez du gouverneur, est-ce que vous avez pu prendre langue avec lui? Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Est-ce que vous l'avez appelé?
Eh bien, nous avons eu son directeur de cabinet en ligne lors de cet obstacle et nous lui avons assuré que nous ne tiendrions pas de meeting populaire ou de manifestation publique pendant les 48 heures qui suivraient notre entrée dans la province. Le gouverneur ayant demandé un petit délai de temps pour organiser la sécurité dans la province, nous avions accepté ce délai de temps. Malheureusement, les policiers avaient reçu des instructions fermes d'empêcher Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central.
Les manifestations ne sont pas interdites en RDC, mais bon, il y a un régime de... Il faut prévenir. Est-ce que vous avez prévenu? Parce qu'il y a trois jours plus tôt, votre manifestation a été dispersée à Kinshasa quand même.
Bien entendu, nous avions prévenu et nous avions bien entendu respecté les dispositions de la Constitution et de la loi. Nous avions nos services de la province du Congo central avaient écrit au gouverneur pour le tenir informé de l'arrivée de Moïse Katumbi et des manifestations qui se tiendraient dans le cadre de ses activités politiques dans le Congo central. Donc tout ça avait été respecté dans les règles, mais malheureusement la dictature en a décidé autrement et a empêché Moïse Katumbi de poursuivre son programme.
Déjà, vous faites face à des obstacles. Ce n'est pas encore la campagne électorale. Comment entrevoyez-vous l'avenir? Parce que cette année, c'est une année électorale. Est-ce que vous pensez que ça sera aisé? Comment vous le voyez?
Écoutez, dans un contexte global, les masques sont tombés. Le régime de Félix Tshisekedi n'est qu'une dictature, puisque déjà, on constate que la répression des marches pacifiques a été extrêmement violente. samedi dernier, plusieurs personnes ont été molestées de manière tout à fait cruelle et barbare. Donc on voit très bien où le pays, la République démocratique du Congo, est en train d'être plongé. Les espaces démocratiques sont totalement se ferment à mesure que Félix Tshisekedi entrevoit des élections qu'il veut mettre à sa portée, à sa main, en manipulant le fichier électoral, en monopolisant la CENI et tous les instruments d'organisation des élections.
Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En sport, les demi-finales de la Basketball Africa League se disputent ce mercredi à la Kigali Arena. Deux grosses affiches très attendues, l'AS Douane du Sénégal défie Petro de Luanda, l'équipe redoutable qui a montré des faiblesses face aux Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club. Coup d'envoi, 15h temps universel, juste après, à 18h30 temps universel, Al Ahly d'Égypte fera face au stade malien de Bamako, qui impressionne dans ce tournoi. Cette équipe malienne s'est renforcée avec de nouveaux joueurs pour les play-offs, mais sa base reste locale. Nous retrouvons sur place à Kigali nos envoyés spéciaux Cheikh Thiérot et Yacouba Ouedraogo.
Jusqu'ici, ils n'ont perdu qu'un seul match de la balle et sont déterminés à aller jusqu'au bout. Les jeunes joueurs du stade malien, premier de la conférence du Sahara, sont conscients de leurs forces. Un collectif huilé bâti autour de joueurs locaux qui se connaissent depuis fort longtemps. Kaba Kanté, coach du stade malien de Bamako.
Je travaille avec ces jeunes depuis à bas âge, donc on se connaît, je connais leur potentialité et c'est tous les plans parce que je l'ai eu à les encadrer depuis les U16 et U18. Donc l'intégration a été facile. Puisque quand tu connais quelqu'un, et c'est facile de travailler avec lui, sa mentalité, sa capacité physique et intellectuelle. Donc, c'est ce qui a fait que ces jeunes joueurs locaux font la force de cette équipe.
Sur les 13 joueurs que compte le stade malien dans ses play-offs, 9 sont de nationalité malienne. Parmi eux, Aliou Diara, 22 ans, l'un des meilleurs joueurs de cette saison 2023. Le jeune natif de Kai totalise 6 double-double en 6 matchs cette année, dont le dernier en quart, 18 points et 18 rebonds. Timide hors parquet, Aliou Diara n'hésite pas à aller au cerceau ou à effectuer des blocs spectaculaires.
J'ai beaucoup souffert dans l'apprentissage du dunk et j'ai consenti beaucoup d'efforts pour trouver la détente parfaite. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en profite bien.
En demi-finale ce mercredi, la jeunesse malienne devra jouer des coudes pour faire douter le géant égyptien d'Al Ahly, prétendant sérieux au titre. Pour cela, le coach Kaba Kanté bénéficie de l'expérience du français John Wickens, énorme lors des quarts de finale enlevés devant les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, non sans difficulté.
Je pense qu'on a eu un petit relâchement et l'équipe de Cape Town a pris confiance surtout. Bon, à la fin, on a eu la victoire, mais bon, je pense qu'à l'entraînement, on va régler certains trucs en défense, car c'est ça qui gagne un championnat à la fin. L'attaque gagne des matchs, mais la défense gagne des championnats.
Une défense sans nul doute nécessaire pour contrer le collectif expérimenté et les individualités redoutables du géant égyptien d'Al Ahly. Yacouba Ouedraogo, Cheikh Thiérot, VOA Afrique, Kigali.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir du panafricanisme et des organisations régionales et panafricaines comme l'Union africaine et la CEDEAO. Ce 25 mai est la journée mondiale de l'Afrique, marquant le 60e anniversaire de la création de l'organisation de l'unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine. Une célébration dans un contexte d'hostilité envers des institutions transnationales et une remise en cause de leur rôle dans la résolution des problèmes des pays membres. Quel rôle et quel avenir pour l'Union africaine dans un continent miné par des crises multiformes? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel et en rediffusion samedi et dimanche.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia, à la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.